Nous abordons maintenant la troisième partie de cette soirée sur le document du pape, la joie de l'évangile, que vous connaissez tous par cœur, bien sûr, maintenant, hein, puisque vous ne faites que ça, que de lire le matin, le midi, le soir. Et donc, ce soir, j'aborde les paragraphes 160 à 175, qui commencent par un titre un peu compliqué, mais qui va donc être pour moi l'occasion de le décliner, une évangélisation pour l'approfondissement du kérigme. Bon, la dernière fois, le pape nous rappelait qu'il ne fallait pas utiliser des mots compliqués, mais il en utilise de temps en temps pour rappeler qu'il y a malgré tout au cœur de l'enseignement chrétien, ou pas malgré tout, mais qu'il y a vraiment au cœur de l'enseignement chrétien des mots dont nous devons bien prendre conscience qu'ils traversent l'histoire des chrétiens, parce que ce sont des mots qui synthétisent, résument, complètent, amplifient tout le mystère chrétien. Or, en l'occurrence, le kérigme, je vais l'utiliser plusieurs fois ce soir, donc écoutez bien rapidement la première définition qu'on va pouvoir en donner, c'est en fait la proclamation du Christ mort et ressuscité. C'est donc comment disons-nous que le Christ est mort et ressuscité. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, lorsque nous entendons la fin de l'Évangile, quand Jésus dit « Allez de toutes les nations évangéliser et rappeler aux gens ce que j'ai fait », eh bien, ça n'est pas pour dire « J'ai marché sur l'eau, j'ai multiplié les pains, et puis j'ai guéri des lépreux », mais c'est « Je suis mort et ressuscité ». Donc, le cœur de l'engagement chrétien, c'est voilà, le kérigme, c'est la manifestation, l'expression, trouver les mots à chaque génération, sous chaque latitude, pour chaque culture, qui vont permettre à chacun de comprendre que l'œuvre du Christ est une œuvre pour eux, et que même si elle a maintenant 2000 ans dans l'histoire chronologique, eh bien, elle est toujours actuelle. Voilà. Donc, vous voyez dans quelle perspective nous nous mettons. C'est la fin du grand chapitre sur l'homélie, la prédication, la préparation de l'homélie, etc. Donc, maintenant, on va essayer d'ouvrir un petit peu, parce que la parole de Dieu, eh bien, elle n'est prisonnière de personne, et elle n'est surtout pas la propriété de certaines personnes, ni de certaines personnes au cœur de l'Église. Donc, cette parole de Dieu qui est accessible à tout le monde, ça veut dire que chacun d'entre nous, à partir du moment où nous sommes baptisés, eh bien, nous avons en nous la grâce, la possibilité, un don de Dieu dans notre vie qui nous permet de trouver les mots qui vont dire notre foi en Jésus mort et ressuscité. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, le pape nous rappelle que cette proclamation de la mort et de la résurrection du Christ, cette proclamation vient du fait que le Christ lui-même donne un ordre à ses apôtres. Allez de toutes les nations évangéliser. Ça veut dire que ça n'est pas optionnel. L'ordre du Christ n'est pas pour dire « vous allez en parler pendant 10 ans, puis après vous irez vous coucher, on fera une association d'anciens combattants et tout ira bien ». Non, c'est un envoi permanent, et cet envoi permet du coup à chacun et à chaque génération, notamment aux évêques qui sont, vous le savez, les successeurs des apôtres depuis 2000 ans, on fête aujourd'hui d'ailleurs Saint Matthias, hein, qui n'est pas le successeur de Judas, mais le successeur des apôtres, eh bien, qui comprennent qu'ils ont cette mission, ces petits pêcheurs, ces hommes d'une petite extraction sociale, à qui Jésus leur donne une mission mondiale. C'est inimaginable. Il faut vous imaginer, pour comprendre la mission de Pierre comme premier des apôtres, hein, vous prenez par exemple le cauchois profond, d'accord, avec un accent et des propos qui ne sont pas immédiatement ceux du français qu'on apprend à l'école, et que c'est à lui, ce cauchois du pays de Caux profond, qu'on demande d'aller sur la place de Jérusalem le jour de la Pentecôte pour annoncer la résurrection de Jésus. Hein, à partir de ce moment-là, on va comprendre. D'ailleurs, les gens à Jérusalem, quand ils entendent Pierre, il est 9h du matin, pensent qu'il est bourré, tellement ils n'ont rien compris de ce qu'il disait. Voyez, parce que son accent était trop fort, et puis parce que probablement il avait utilisé des mots qu'on ne comprenait pas. Bon, voilà. Donc, en tout cas, les apôtres comprennent qu'ils sont envoyés. Et pourquoi sont-ils envoyés? Ils sont envoyés pour que, eh bien, chacun puisse découvrir qu'il y a dans son cœur la présence de Dieu, et que cette présence de Dieu peut se développer, et que c'est un chemin. Ce chemin de la maturation chrétienne, ce chemin de la compréhension de la mort et de la résurrection du Christ, c'est pas un truc qu'on va vous asséner avec une disquette en disant « maintenant vous l'apprenez, c'est comme ça, c'est par cœur, et vous tout ira bien ». Non, c'est un chemin, et ce chemin va prendre beaucoup de temps. Il y a des chemins qui vont être plus linéaires que d'autres, il y a des chemins spirituels qui vont être bien plus compliqués que d'autres. En tout cas, la question est plus large.